Vous écoutez RFI, les 19h à Port-au-Prince, 23h en temps universel et minuit ici à Paris. Et c'est à vous, Diane Berger, pour le journal. Bonsoir Diane.
Bonsoir Sylvie Berruet, bonsoir à toutes et tous. Le Liban va-t-il pouvoir bientôt respirer? Un cessez-le-feu serait sur le point d'être conclu entre Israël et le Hezbollah. Mais d'ici là, sur place, les affrontements redoublent en intensité. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'inquiétude autour de l'assassinat d'un rabbin moldavo-israélien aux Émirats Arabes Unis. Aux Philippines, les deux familles au pouvoir, les Marcos et les Duterte, se déchirent. La vice-présidente est accusée d'avoir fomenté un complot contre le dirigeant du pays. Et puis notre correspondante à Pékin, Cléa Broderst, nous parlera à la fin de ce journal d'un film chinois primé à Taïwan, mais censuré dans son propre pays. Mais d'abord, avant de développer ses titres aux États-Unis, cette victoire du camp républicain, la justice valide l'arrêt des poursuites contre Donald Trump pour ingérence électorale. On le rappelle, le milliardaire était accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle en 2020. Le procureur spécial en charge du dossier avait recommandé un peu plus tôt cet arrêt des procédures, car Donald Trump est justement de nouveau le président élu et le ministère de la Justice a depuis 50 ans pour principe de ne pas poursuivre de président américain en exercice. Au Proche-Orient maintenant, 31 personnes tuées par des frappes israéliennes au Liban. C'est le bilan des seuls bombardements de ce lundi, selon le ministère de la Santé libanais. Des attaques qui ciblaient principalement des fiefs du Hezbollah dans le sud du pays. Cela alors qu'une trêve n'a jamais semblé aussi proche entre l'État hébreu et le mouvement pro-iranien. C'est en tout cas ce que suggère Washington. Paris ajoute de son côté que les discussions ont avancé de manière significative ces dernières heures. Au Liban, la presse et les responsables politiques font état d'un optimisme prudent, Laure Stéphane.
Optimisme prudent car des informations très contradictoires circulent depuis hier. Mais aujourd'hui, le numéro 2 du Parlement libanais, Elias Boussab, a affirmé qu'il n'y avait plus, je cite, « aucun obstacle sérieux à l'adoption d'une trêve ». Selon lui, celle-ci serait d'une durée de 60 jours et la France ferait partie du comité de surveillance de cette halte des hostilités, un comité dirigé par les États-Unis. Le responsable précise aussi que la trêve prévoit notamment le renforcement de l'armée libanaise dans le sud du Liban. Elle y est déployée depuis la fin de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Alors que cette dernière est censée être un acteur clé d'une solution, la FINUL dénonce ce soir le fait que des positions militaires libanaises ont été prises pour cible par l'armée israélienne, y compris hier. Selon Beyrouth, 45 soldats ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne. Les troupes libanaises ne sont pas parties du conflit. C'est par la possibilité d'un accord proche que des Libanais tentent de s'expliquer l'intensité des frappes israéliennes ces derniers jours, comme une surenchère avant une pause, tandis que le Hezbollah, de son côté, a multiplié les tirs de roquettes contre l'État hébreu. Laure Stéphane, Beyrouth, RFI.
Des raids israéliens également signalés en Syrie. Selon la télévision d'État syrienne, un avant-poste et 6 ponts ont été touchés près de la frontière libanaise. L'armée israélienne n'a pas commenté, mais elle signalait il y a quelques semaines viser des routes qui serviraient au Hezbollah pour récupérer de l'armement. En Israël, des centaines de juifs ultra-orthodoxes aux obsèques du rabbin assassiné il y a quelques jours aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats qui annoncent de leur côté ce soir que les meurtriers présumés arrêtés le week-end dernier seraient de nationalité ouzbek. Dernier développement de cette affaire qui choque la communauté juive du petit pays pétrolier, d'autant que le pays avait normalisé ses relations avec Israël en 2020. C'est également un pays ultra-sécurisé, rappelle Philippe Petria, maître de conférence à l'université Paris 1, spécialiste du golf.
C'est un pays qui est à la fois très calme et surtout très sécurisé. Je dirais qu'il est d'autant plus calme qu'il est sécurisé. Depuis 2011, mais surtout 2015, il y a une série de lois qui ont été passées au motif de la lutte contre l'antiterrorisme, qui ont quand même généralisé un système de surveillance à la fois physique, électronique, disons même économique à l'ensemble de la population nationale et non nationale. Qui fait que probablement en termes de surveillance de la population et donc de sécurisation, c'est le pays le plus avancé du Golfe. Donc oui, c'est à la fois très calme, très sécurisé. Et en même temps, depuis la guerre à Gaza, tout ce qui a été tu depuis les accords d'Abraham, donc bah, les réticences de la population qui était tue à cause des surveillances, bon là, devient de plus en plus difficile à museler ou en tout cas à faire disparaître des réseaux sociaux, l'expression des opinions. Donc malheureusement, je ne sais pas du tout qui sont les auteurs de l'attentat, mais c'est a posteriori, ça paraît assez normal en fait qu'il y ait une réaction qui s'en prenne en fait. J'imagine derrière l'assassinat de ce rabbin. En fait, à la politique générale de l'Émirat.
Le spécialiste du Golfe, Philippe Petria, interrogé par Muriel Paradon. Vous écoutez toujours RFI, il est 18h05 à Port-au-Prince. Les violences des gangs causent toujours plus de ravages dans la capitale haïtienne. Selon l'OIM ce soir, l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 40 000 personnes ont été chassées de leur lieu de vie en l'espace de 10 jours dans la capitale. Plus précisément, entre le 11 et le 20 novembre, un véritable défi humanitaire. Pour certains haïtiens, c'est la deuxième ou troisième fois en quelques mois qu'ils sont obligés de se déplacer pour fuir les affrontements. Aux Philippines, la guerre est déclarée entre les deux familles les plus puissantes du pays, les Duterte et les Marcos. La vice-présidente Sara Duterte, fille de l'ancien chef de l'État, Rodrigo Duterte, est accusée par le ministère de la Justice d'être le cerveau d'un complot pour assassiner le président de la République, Ferdinand Marcos Jr. L'alliance entre leurs deux familles leur avait permis d'arriver au pouvoir il y a 2 ans et elle se déchire désormais de manière spectaculaire, Nicolas Roca.
Tous les coups sont désormais permis entre les Marcos et les Duterte. L'alliance de circonstances a éclaté depuis plusieurs mois alors que les deux camps espèrent remporter l'élection présidentielle de 2028. Mais ce samedi, Sara Duterte est montée d'un cran dans l'agressivité.
J'ai déjà parlé à un membre de ma sécurité. Je lui ai dit que si je me faisais tuer, il faudrait les tuer. Tuer le président Marcos, la première dame Lisa Araneta et le président du Parlement Martin Romualdez. Ce n'est pas une blague. J'ai déjà tout arrangé, tout prévu. Et je lui ai dit de ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit tué.
Une menace de mort prise au sérieux par le camp présidentiel. Sara Duterte, déjà visée par une procédure en destitution au Parlement pour une autre affaire, a maintenant 5 jours pour venir s'expliquer devant le ministère de la Justice et une chasse à l'homme a été lancée pour attraper l'assassin. Le président Ferdinand Marcos Jr. a pris la parole ce lundi.
Les déclarations de ces derniers jours sont inquiétantes. Il y a eu des insultes et des plans pour nous assassiner. Nous ne devons pas laisser faire ce complot criminel. Je vais me battre. En tant que pays démocratique, nous devons faire respecter l'état de droit.
La lutte intestine entre le président et sa vice-présidente risque de s'intensifier avant les élections de mi-mandat prévues en mai prochain.
Moscou se rapproche des talibans au pouvoir en Afghanistan depuis maintenant 3 ans. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, s'est en effet rendu à Kaboul ce lundi. Un événement rarissime, aucun pays au monde n'a reconnu jusqu'ici la légitimité du mouvement islamiste. Et selon les talibans, la Russie aurait promis de les retirer bientôt de sa liste des groupes terroristes. En France, l'heure des réquisitions au procès des viols de Mazan. La peine maximale a été demandée pour Dominique Pellicot, 20 ans de réclusion pour avoir violé et fait violer son épouse par des dizaines d'hommes recrutés en ligne alors que la victime était droguée. Pour 20 autres accusés, les peines vont jusqu'à 17 ans de prison. Penchons-nous maintenant sur le cas d'un film chinois adoubé hors de son pays, mais censuré à domicile. Il s'appelle An Unfinished Film, grand gagnant des Golden Horse Awards, l'équivalent taïwanais des Oscars. Le chinois Lu Ye y a remporté les prix du meilleur réalisateur, meilleur film, mais le sujet de son film est tabou pour Pékin. Résultat, il n'a pas été distribué en Chine continentale, Cléa Broderst.
Les prix décernés à Lu Ye et d'autres lauréats des Golden Horse Awards sont un défi aux autorités chinoises, connues pour leur contrôle strict sur l'industrie cinématographique. Il n'y a d'ailleurs aucune mention de An Unfinished Film sur Douban, la base de données en ligne de contenu relatif aux films, aux livres, à la musique et aux événements artistiques en Chine. Le docu-fiction retrace les efforts d'une équipe de tournage pendant la pandémie à Wuhan, alors que la ville était en confinement. Le film mélange images documentaires, séquences en ligne liées au Covid et extraits d'œuvres précédentes de Lu Ye, lieux, dont des images interdites ou bloquées par la censure chinoise. Les critiques saluent un drame puissant, reflet du traumatisme collectif d'une nation. Lu Yue n'en est pas à son premier conflit avec la censure. En 2006, son film Une jeunesse chinoise n'a pas été diffusé en Chine et il a subi une interdiction de tournage pendant 5 ans pour avoir évoqué les manifestations de Tiananmen. Malgré le boycott du gouvernement chinois depuis 6 ans, les Golden Horse Awards restent une plateforme pour les films chinois indépendants, souvent privés de distribution en Chine. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Il est maintenant 23h10 en temps universel. 23h10 en temps universel.